Vous écoutez RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault et Laure Broulard qui m'aident chaque jour à préparer les dossiers qu'on vous présente dans cette émission, avec Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime aujourd'hui. Et à la une, c'est 10 ans après, presque jour pour jour, la disparition de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier, un point sur cette affaire qui demeure encore largement surmontée par des points d'interrogation et des zones d'ombre, puisque tout le monde s'en souvient, je le rappelais il y a un instant, le suspect numéro un, celui qui aurait dû affronter en tout cas ses juges devant une cour d'assises, est mort en prison. Il s'est suicidé en prison, et donc cela a, comme on dit, éteint l'action de la justice. Alors qu'est-ce qui reste de tout cela 10 ans après? Pour satisfaire votre curiosité, j'ai invité deux des journalistes qui connaissent le mieux ce dossier, tout simplement parce qu'ils ont consacré une enquête qui a duré près de 5 ans, 2004-2009. Ils ont publié les résultats de cette enquête aux éditions Flammarion en 2009, sous le titre tout simple d'ailleurs de l'affaire Giraud. Christophe Gauthier et Stéphane Minca sont mes invités. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Alors, vous allez vous débrouiller ensemble pour savoir qui va me répondre, mais...
Le plus vieux.
Oui, mais vous avez passé donc ces 5 années au plus près de l'affaire, du dossier, de toutes les personnes qui ont été en cause dans ce dossier. Qu'est-ce qui vous reste 10 ans après l'un et l'autre ?
Une certitude. Enfin, pour moi en l'occurrence, une certitude. La quasi-certitude de savoir effectivement, bien que la justice n'ait pas pu,
n'ait
pas eu œuvre
claire,
de justice, ouais, évidemment, compte tenu du suicide du principal mis en cause, la certitude
que le responsable de tout ça est dans le dossier, par exemple.
Oui, effectivement, que malgré tout, savoir ce qui s'est passé, effectivement.
D'accord, voilà. Je vous demanderai tout à l'heure quel est, à votre avis, le scénario qui se rapproche le plus de ce qui s'est réellement passé. Christophe Gauthier, pour vous, c'est une affaire que vous n'avez pas oubliée, évidemment.
Non, c'est une affaire qui est marquante pour plein de raisons très différentes, mais surtout une affaire qui est remarquable et qui restera dans les annales du crime, parce que malgré les efforts déployés par la police et la justice, c'est une affaire dans laquelle on n'a pas très très peu de certitudes. On ne sait pas qui a tué ces deux jeunes femmes, on ne sait pas quand elles ont été tuées.
Ni dans quelles circonstances,
et ni où, ni quand. Donc ça reste pour ça une affaire qui est à nos yeux, à mes yeux, une affaire exemplaire, extraordinaire.
On reviendra tout à l'heure aussi sur la question de savoir si Jean-Pierre Trévert, si c'est lui, a agi seul ou avec des complices. Est-ce que quelqu'un a pu commanditer cette affaire, ou est-ce qu'il s'agit d'un tragique fait divers de quelqu'un qui voulait voler les cartes de crédit de deux jeunes femmes rencontrées par hasard sur un parking de restaurant. On en reparlera tout à l'heure. Tout de suite, pour je pense toujours au début de ces émissions à ceux qui évidemment savent que cette affaire a eu lieu mais ne se souviennent plus des détails. On va revivre ensemble, comme les auditeurs d'RTL ont pu vivre les grands moments de ce dossier qui s'est étalé sur plusieurs années. Un montage réalisé pour l'heure du crime par Kevin Collin.
C'est la grandeur et le paradoxe du comédien. Tous les soirs, Roland Giraud est sur la scène du Théâtre des Variétés à Paris. Aucun spectateur ne se doute de ce qu'il vit. Sa fille Géraldine, comédienne, elle aussi a disparu dans Lyon, un soir où elle se promenait avec une amie dont on est également sans nouvelles, Olivier Jay.
Oui, depuis 3 semaines, les habitants du petit village de l'Apostole se demandent ce qui a bien pu arriver à Géraldine. Ici, personne ne semble croire à une fugue ou à une disparition sur un coup de tête. Aujourd'hui, la principale piste est la découverte de la carte de crédit de Géraldine en possession d'un jardinier de 40 ans. Il ne parvient pas, semble-t-il, à expliquer comment il s'est procuré les moyens de paiement des deux jeunes femmes.
10 décembre 2004.
La découverte hier de deux corps très abîmés, difficilement identifiables. Ils se trouvaient dans un puisard qui collecte les eaux usées, pas très loin du domicile du suspect à Villeneuve-sur-Yonne. Le trousseau de clés de Géraldine Giraud a été découvert dans le jardin. Alors on ne sait rien encore de ce qui a pu se passer. On ne connaît pas grand-chose du suspect. Jean-Pierre Trébert, 41 ans, tantôt présenté comme un ouvrier agricole, tantôt comme un garde forestier ou un ouvrier du bâtiment. Le voisinage ne le connaît pas bien.
Réaction de Roland Giraud.
Comment un être, entre guillemets, humain, puisqu'apparemment, d'abord les actes, on s'en éloigne beaucoup, peut être capable de faire une chose pareille. Et si je l'avais dans moi, qu'est-ce que je ferais si je l'avais devant moi? Et c'est vrai que je préfère toujours ne pas l'avoir devant moi, parce que je me dis, quelqu'un qui est capable de faire une horreur pareille et qui se donne le droit de faire ça, bien sûr qu'on peut avoir de la haine et qu'on peut avoir des réflexes de haine, mais ça, je m'en garde énormément. Et dans ces cas-là, il faut être plus fort. Je veux être un être humain qui a une âme, qui a des références, mais c'est très, très difficile. Il n'y a plus de vie, donc il n'y a plus d'espoir de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir humain de voir la personne, de l'embrasser, de la toucher, tout ça. Et ça, c'est insupportable, même si on a la foi.
2 mars 2005.
Rebondissement dans l'affaire Giraud. La tante maternelle de la comédienne est en garde à vue depuis son interpellation hier à Sens, dans l'Yonne.
Les enquêteurs ont relevé des traces de chloroforme dans sa cave. Il pourrait s'agir de résidus de chloropicrine, le gaz toxique qui pourrait avoir tué Géraldine Giraud et son amie Cathy Allherbier fin octobre.
9 septembre 2009.
Oui, une évasion à l'ancienne, pas d'hélicoptère, pas de coup de feu. Jean-Pierre Trébert s'est tout simplement caché dans un carton. C'est l'hypothèse la plus probable. Il aurait quitté la prison à bord d'un camion de livraison à 10h30 le matin. Et le plus étonnant, c'est qu'il a fallu près de 7 heures au personnel pour s'en apercevoir.
17 septembre 2009.
J'arrive tout à l'heure au journal, j'ouvre mon courrier, je trouve une lettre manuscrite comme j'en sois certaine de mes chers lecteurs. Je pense à un moment donné à une blague, mais il me joint sa carte de prisonnier pour authentifier le document. C'est comme une carte de crédit, maison dorée d'Auxerre, Trévers Jean-Pierre, 13855 avec sa photo. La lettre est truffée de fautes d'orthographe. Lettre à Marianne. Je ne me suis pas évadé, j'ai repris une petite partie du temps que les assassins, les vrais, m'ont volé, car je ne supportais plus la détention étant au bord du suicide.
21 novembre 2009.
Trébert n'a pas opposé de résistance, vraisemblablement très surpris de voir les hommes en noir débarquer dans l'appartement dans lequel il se planquait. Les hommes du raid vont donc tomber nez à nez avec Trébert. En tout, 4 personnes ont été interpellées cet après-midi. Le fugitif, son complice et un couple propriétaire du petit studio.
Le suicide de Jean-Pierre Trébert, le principal suspect du meurtre de Géraldine Giraud et Cathy Allherbier, a été retrouvé mort ce matin dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis. Écoutez la réaction de Roland Giraud, joint il y a quelques minutes par Anne-Claire Danel.
Je pense qu'il a été lâche jusqu'au bout et qu'il a choisi de se donner lui-même la peine capitale. Parce que quand on est innocent, on se défend, il n'a jamais parlé. Je suis convaincu qu'il est le ou un des responsables. Et ça ne me rendra pas ma fille, ça ne me rendra pas l'ami de Géraldine, Cathy, la famille Allherbier, à laquelle je pense beaucoup aussi.
Voilà, en quelques 3 minutes, un petit peu moins de 4 minutes, on s'est replongé dans cette affaire, ce qui permet de constater d'ailleurs que toutes les forces de la rédaction d'RTL avaient été mobilisées pour que vous puissiez suivre au fil des rebondissements cette affaire qui a évidemment bouleversé la France. Vous avez reconnu au passage les voix d'Olivier G, Pierre-Marie Christin, Myriam Alma et aussi Anne-Claire Danel, Stéphane Boutsock, l'interview de Perico Legas du journal Marianne par Jean-Alphonse Richard. Et je m'apprêtais à vous dire, mais si vous avez envie de parler de cette affaire, de vous souvenir de cette affaire, faites-le en nous appelant au 3210 ou par un courriel sur rtl.fr. Et vous avez été précédé par quelqu'un que je vais prendre tout de suite en ligne, monsieur Michel Meurant. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pradel.
Vous étiez le procureur de la République, à Sens, hein, pendant l'affaire. Donc, évidemment, vous connaissez ce dossier par cœur. Est-ce que je voudrais vous demander, vous poser la même question que celle que je posais il y a un tout petit instant à Christophe Gauthier et Stéphane Minca. Qu'est-ce qui vous reste de cette affaire 10 ans après?
Bon, d'abord, je voudrais les saluer parce que j'ai que de dire.
Bonjour, monsieur le procureur.
Bonjour. Je ne suis plus procureur, je suis en retraite. depuis l'année dernière. Oui. Mais j'ai beaucoup apprécié leur travail, même si je partage pas tout à fait leur analyse du dossier. Mm-hmm. Mais ça, c'est un autre problème. Bon, moi, ce qui me reste de cette affaire, c'est un gigantesque remords, je dirais. la pression d'un gigantesque échec. Ouais.
Remords, c'est plus fort que regret, hein.
Ouais, tout à fait, vous savez. J'ai connu beaucoup d'affaires au cours de ma carrière. J'ai été 10 ans juge d'instruction. J'ai fait partie de la section antiterroriste du parquet de Paris. Donc, des affaires criminelles, j'en ai connu beaucoup. Mais comme celle-là, jamais. Et comment dire, c'est une affaire à laquelle je pense sans arrêt. Parce que on n'a pas réussi à aller au bout. On n'a pas, il y a des tas de choses qu'on n'a pas comprises. On n'a toujours pas compris pourquoi elles avaient été, ces deux malheureuses avaient été tuées. Ouais. On n'a toujours pas compris où elles avaient été tuées. Qui avait décidé de leur mort. Même si je suis tout à fait persuadé que Trébert y était pour beaucoup. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on l'a trouvé, donc elle disparaît le 1er novembre. Hein.
1er novembre, oui.
On interpelle Trébert le 23 novembre, si j'ai bonne mémoire. Il est mis en examen le 25 novembre. Oui. On le trouve avec les cartes bancaires des filles dont il s'était servi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'identifie. Ouais. Et au cours d'un déplacement chez lui, après son premier interrogatoire, sur le fond, par le juge d'instruction, on trouve les corps de ces deux malheureuses au fond de ce puisard. Ouais. Avec un certain nombre d'éléments qui laissent à penser qu'elles avaient été séquestrées, au moins séquestrées sur place.
Alors, Michel Meuron, on va reprendre tout ça, évidemment, tout au long de l'émission, les grands rebondissements, l'enquête, et en fait, le remords que vous exprimiez. Le remords, c'est pas le remords de pas avoir travaillé, c'est pas le remords que les enquêteurs aient pas fait leur boulot, c'est pas le remords que la justice n'ait pas su quoi faire, c'est comme ça, quoi.
Tout à fait, ouais. La chance n'a pas été
de votre côté, quoi, voilà.
Non, je pense pas que ce soit une question de chance.
Ou le hasard.
On a travaillé comme des fous sur cette affaire-là, aussi bien les enquêteurs que le juge d'instruction que moi-même. Ouais. J'y ai d'ailleurs laissé ma santé dans cette affaire-là, puisque j'ai fait un accident cardiaque grave chez Trébert. Disons qu'en fait, vous savez, dans une histoire criminelle classique, entre guillemets, on démarre avec un corps, on a des indices, on a l'examen des lieux, etc. Là, on est parti complètement, on ne savait pas où on allait. Je suis persuadé qu'il y a des tas d'éléments qui nous ont échappé dès le départ et qu'on n'a jamais pu rattraper. Un exemple simple. Lorsque la famille de Katia L'Herbier vient signaler la disparition de Katia au commissariat de Sens, les policiers de Sens se transportent chez Madame Van Kempen où elle vivait. Discute avec elle, jette un œil, et on apprendra, mais beaucoup plus tard, que dans la cave, il y avait un chat mort.
Oui, alors écoutez, je vous interromps parce que d'abord, je suis obligé d'avoir un œil sur la pendule. Là, on a pause qui s'impose, si j'ose dire. Moi, ce que je vous propose, puisque vous êtes en train et que vous avez le temps apparemment d'écouter RTL cet après-midi et d'écouter cette émission, dans quelques instants, après cette pause, on va rappeler, on va rafraîchir la mémoire de tout le monde, redonner à grands traits, on va entendre quelques autres documents sonores d'RTL. Je vais demander l'avis, donc évidemment, de Stéphane Minca et de Christophe Gauthier sur des points très très précis du dossier. Puis je vous propose qu'on se retrouve vers 14h45 à la fin pour tirer peut-être un peu ensemble les enseignements de tout cela.
D'accord, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, vous me rappelez à ce moment-là.
Merci, à tout à l'heure, monsieur le procureur.
À tout à l'heure.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous sommes le lundi 1er novembre 2004, fin du week-end de la Toussaint, à une centaine de kilomètres au sud-est de Paris. Il est un peu plus de 20h. Deux jeunes femmes d'une trentaine d'années, Géraldine et Katia, quittent la grande demeure familiale de la famille du célèbre comédien Roland Giraud, l'Apostole. Elles prennent place dans une voiture, une Peugeot 206 grise. On ne les reverra jamais vivantes. Géraldine est la fille unique du comédien Roland Giraud qui, en cet automne 2004, est à l'affiche du Théâtre des Variétés à Paris avec la pièce « Avis de tempête » dans laquelle il donne la réplique à Véronique Jeannot. C'est un triomphe, la scène est pleine tous les soirs. La veille, entre les deux représentations dominicales, le comédien a parlé à sa fille au téléphone. C'est une tradition familiale immuable chez les Giraud. On s'appelle au moins une fois par semaine et c'est toujours le dimanche. Le père et la fille échangent quelques banalités, penser à bien fermer la maison à l'issue du week-end, rappeler que la femme de ménage passera mardi, s'assurer que tout va bien. Un coup de fil donc, comme il y en a eu tant d'autres. Au téléphone, la voix de la jeune femme de 36 ans est claire, posée, optimiste, d'autant qu'elle vient de passer ce week-end avec son nouvel amour, sa nouvelle passion. Une femme. Il y a bien longtemps que ses préférences sexuelles ne posent plus de problème à personne dans l'entourage. Géraldine a fait les honneurs de l'Apostole à Katia L'Herbier, une jeune musicienne dont elle a fait la connaissance moins de 3 semaines auparavant. Un véritable coup de foudre réciproque. Katia a 32 ans, elle travaille à Sens. Géraldine l'a rencontrée lors d'une visite à la sœur de sa mère, Marie-Christine Van Kampen, qui loue une chambre depuis peu de temps à la jeune artiste. Depuis cette rencontre, Géraldine et Katia sont devenues inséparables. Lorsqu'elles ne sont pas ensemble, elles ne cessent de s'appeler sur leur portable, de s'envoyer des SMS. Pour ce long week-end de la Toussaint, elles avaient décidé de rester ensemble à l'Apostole, donc la maison de famille des Giraud, non loin de Sens, et cela jusqu'au lundi soir. Et maintenant, un peu plus de 20h, en ce lundi 1er novembre, les deux jeunes femmes quittent donc l'Apostole à bord de cette voiture. On saura plus tard qu'à 20h08, Géraldine Giraud a reçu un appel de Frédéric, une de ses amies intimes. Géraldine entame alors la conversation, tout en commençant à rouler sur les petites routes de campagne, mais la communication passe mal et elle est interrompue à 20h10. À partir de ce moment-là, Géraldine Giraud et Katia L'Herbier disparaissent, plus personne n'aura de nouvelles d'elle. Dès le lendemain, les parents des deux jeunes femmes et nombre de leurs amis tentent de les joindre. En vain, les portables sont sur répondeur, les boîtes vocales sont vite saturées. Elles ne rappellent pas. On pense d'abord, bien sûr, à un accident de la route. Roland Giraud appelle les gendarmeries de la région, les hôpitaux, sans succès. Alors, un enlèvement. La fille d'un comédien célèbre serait en effet une bonne monnaie d'échange pour des ravisseurs. Mais aucune demande de rançon n'est réclamée aux parents. Le 3 novembre, Roland Giraud est fou d'inquiétude. Il décide de prévenir la police. Discrètement, des recherches s'engagent dans la région, autour de la maison, de l'Apostole, de Sens, de Villeneuve-sur-Yonne. Sur place, la gendarmerie mène plusieurs battues, des plongeurs sondent les étangs et les rivières, un hélicoptère survole les bois et les forêts, pas de résultat. Pourtant, un fait intrigue les enquêteurs. Les cartes bancaires des deux jeunes femmes sont utilisées quasi quotidiennement depuis leur disparition pour de petites sommes. Et cela, toujours dans la région de Lyon ou de la Seine-et-Marne. Il y aura en tout une douzaine de retraits d'espèces et de règlements divers pour un peu moins de 2000 euros. Et c'est l'exploitation de cette piste ténue qui va permettre aux enquêteurs d'identifier Jean-Pierre Trébert, puis de procéder à son interpellation et enfin, comme on le disait tout à l'heure, de découvrir les corps des deux jeunes femmes disparues dans un puisard qui est situé sur le terrain d'une maison de Villeneuve-sur-Yonne, une maison qui appartient à Jean-Pierre Trébert.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Une nouvelle pause dans cette émission et on retrouve ensuite Stéphane Minca et Christophe Gauthier et on va vous raconter l'enquête, comment les enquêteurs ont-ils été conduits à identifier puis interpeller Jean-Pierre Trébert.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Géraldine Giraud et Katia Lherbier ont disparu, on vient de le rappeler, au soir du 1er novembre 2004. Ensuite, eh bien, voilà, c'est le mystère. Ce mystère va durer plusieurs dizaines de jours. Et puis, le 25 novembre donc 2004, toujours, bah, un peu moins d'un mois plus tard, un certain Jean-Pierre Trébert, un ouvrier agricole de 41 ans, est mis en examen. On l'apprend à ce moment-là. Et on va écouter à ce propos, d'ailleurs, un nouveau document RTL. Cet homme habite à Villeneuve-sur-Yonne, à une trentaine de kilomètres de la maison de campagne des Giraud. C'est dans ses affaires que les policiers ont pu retrouver les cartes bancaires des deux jeunes filles. Et il est poursuivi pour enlèvement, séquestration, vol et escroquerie. À l'époque, Olivier Gé raconte sur notre antenne comment les enquêteurs sont arrivés à identifier Jean-Pierre Trébert.
Depuis la disparition de Géraldine et de son ami, les enquêteurs avaient su rester discrets. En dépit des avis de recherche placardés dans le petit village de l'Apostole, l'affaire n'avait pas été ébruitée. Après tout, les deux jeunes femmes sont adultes et la piste du départ précipité n'est toujours pas officiellement écartée. Mais dès le début, les gendarmes et les policiers ont cherché des traces des disparus. La voiture de la comédienne, tout d'abord, une 206 grise. Un hélicoptère a été utilisé pour survoler la région. Pas de relevé de téléphone portable non plus. C'est finalement un autre indice qui a mis les enquêteurs sur la piste de l'homme mis en examen hier soir, le procureur de Sens, Michel Meurant.
On essaye de se raccrocher à des éléments qui nous permettent de suivre les déplacements des personnes qui ont disparu. Là, bon, c'est les cartes bleues qui nous ont révélé qu'il y avait eu des prélèvements à certains endroits. Et par regroupement, on est arrivé sur ce monsieur.
Le suspect est un ouvrier agricole d'une quarantaine d'années, un saisonnier sans casier judiciaire. Arrêté en Seine-et-Marne, mais résident dans l'Yonne, il est incapable d'expliquer comment il s'est procuré les cartes de crédit des deux disparus. Plus inquiétant encore, des traces de sang ont été découvertes dans sa voiture. Il affirme qu'il s'agit du sang d'un gibier tué à la chasse. Une expertise ADN est en cours. Elle permettra de lever ou de confirmer l'horrible soupçon.
Alors l'enquête, il faut le dire, Christophe Gauthier, Stéphane Minca, a été menée par un policier qui est maintenant en retraite, qui s'appelle toujours d'ailleurs Michel Cuneau. Est-ce que vous pouvez nous redire l'un et l'autre en quelques mots ce travail quand même très complexe des enquêteurs? Parce que là, on a l'impression que tout est facile avec le recul du temps.
Alors ça a été un travail qui a été effectivement extrêmement difficile. Michel Cuneau, c'est un flic à l'ancienne, il est effectivement en retraite aujourd'hui. Quand je dis un flic à l'ancienne, c'est quelqu'un qui privilégie le terrain, qui privilégie son flair, son instinct. On sait que entre le 1er novembre et le 23 novembre, les cartes de crédit des deux jeunes femmes sont utilisées régulièrement. Les policiers vont mettre la main grâce à ses retraits sur des bandes vidéo, notamment dans un supermarché et puis dans une station-service. S'ensuit un long travail d'identification et dans la station-service, les enquêteurs ont l'opportunité de lire partiellement l'immatriculation d'un véhicule.
Alors, c'est-à-dire que Trébert, puisqu'il s'agit de lui, hein, est allé à une carterie, il a été filmé bien sûr, mais en même temps la caméra a filmé le décor et derrière lui il y avait une voiture, c'est ça?
On voit le suspect qui remonte après avoir fait le plein d'essence, il remonte dans une voiture qui se trouvait une 205 blanche de modèle CJ, et on peut lire partiellement la plaque d'immatriculation. Là, les enquêteurs font tourner les ordinateurs, le fichier des cartes grises, et finalement, ils arrivent à identifier 5 ou 6 véhicules qui pourraient correspondre à ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire en fonction de la localisation, parce que chercher une voiture qui est à Brest, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, dans la région, ils en trouvent 5 ou 6. Et puis comme ça, de fil en aiguille, avec les photos tirées des vidéos, ils vont faire du terrain, ils vont les tirer des sonnettes et...
Ils vont présenter la photo, évidemment.
Voilà, à la fin, il reste deux suspects, qui sont deux suspects qui sont en Seine-et-Marne. Mm-hmm. L'un sera mis hors de cause et le second, c'est Jean-Pierre Trébert. Ouais. La carte grise donne une adresse, ils vont à cette adresse, ils n'y habitent pas. L'adresse indique, via les services fiscaux, enfin bon, je vous fais ça très rapidement, un ancien employeur, le commissaire Cuneau, le commandant Cuneau et ses troupes vont à Safteux et là, ils tombent sur une employée qui dit, devant la photo, mais c'est Jean-Pierre. Et cette femme leur dit, écoutez, non, Jean-Pierre travaille plus ici depuis un an. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il circule en automobile, il passe tous les jours sur cette route-là à 7h du matin. Si vous l'attendez, vous le trouverez.
Et alors, Stéphane Minca, c'est là où il y a une espèce de souricière, quoi, non? C'est ça, on va...
Dès le lendemain matin, arrestation, il est 7h du matin. Jean-Pierre Trébert, comme tous les jours, passe. Effectivement, avec sa 205 CJ, comme tu l'as si bien. Et,
Et donc, Michel Cunot et ses...
Donc il y a plusieurs voitures, etc.
Il y a plusieurs voitures, ils vont le prendre en filature, ils vont le prendre en filature sur quelques kilomètres, l'arrêter. Et effectivement, il a Michel Cunot l'arrête, s'empare du portefeuille de Jean-Pierre Trébert, en sort les cartes bancaires de Géraldine et de Katia et lui dit
comment vous expliquez ça.
Et lui dit ça, comment tu vas me l'expliquer quoi.
Je voudrais que on parle de la personnalité de Jean-Pierre Trébert. Évidemment, il faut, là on est 10 ans après, donc on mélange des informations qu'on a mis du temps à obtenir. On va écouter un autre document RTL pour répondre à cette question qui est vraiment Jean-Pierre Trébert. Là c'est un document qui date du 11 décembre 2004. Et c'est Olivier G qui est allé sur le terrain pour RTL recueillir les témoignages de personnes qui ont connu cet homme. Et vous allez le constater d'ailleurs à travers leurs réponses, ils l'ont connu et ils ont du mal à imaginer qu'il ait pu être mêlé à un double crime.
Quand il évoquait la chasse, la traque aux sangliers dans les étendues sans collines de Seine-et-Marne, le forestier Trébert devenait bavard. Selon ceux qui l'ont côtoyé, ce sont les seules discussions qui le faisaient vibrer. Pour tout le reste, même le quotidien, même l'anodin, il ne causait pas, raconte Marc. Dans un domaine, 1200 hectares à entretenir, Marc a travaillé pendant 4 ans, tous les jours, aux côtés de Jean-Pierre Trébert.
Il n'aimait pas dire ce qu'il avait fait, d'où il venait. Dans les discussions, ce n'est pas cohérent. Si vous voulez, vous n'avez pas une réponse, vous n'avez pas une phrase, quoi. Vous avez un mot et un mot, ou un autre mot qui n'a rien à voir avec ce que vous avez demandé et qui est fuyante, quoi, qui est incohérente. Il fuyait carrément les questions en repartant, en s'en allant.
Pour cet ancien collègue, impossible que le forestier ait participé seul à un meurtre. Un complice l'a entraîné. Tous se souviennent qu'il y a 2 ans, un petit escroc aujourd'hui en prison avait piégé Jean-Pierre Trébert. Même s'il avait les cartes bleues des filles, il est innocent, dit Nicolas, ami et employeur du suspect jusqu'à son arrestation.
Qu'il ait les cartes, je sais pas, il a peut-être fait ça pour de l'argent. Je pense qu'il avait quand même pas mal de problèmes d'argent parce qu'il s'était fait avoir un an avant où qu'il travaillait dans un restaurant. Là, il fallait qu'il remonte peut-être un peu les dettes qu'il avait. Mais de là à faire un meurtre pour de l'argent, c'est pas possible. De lui, c'est pas possible.
C'est exactement ce que disait l'ex-femme de Jean-Pierre Trébert à RTL il y a 2 semaines. Il a pu voler, mais pas tuer.
Voilà, on va faire une pause dans cette émission et puis on va en venir à un nouveau rebondissement, un premier rebondissement en mars 2005, donc plusieurs mois après les documents qu'on vient d'entendre. C'est la mise en garde à vue de la tante de Géraldine Giraud, c'est-à-dire la sœur de la mère de la fille du comédien. À tout de suite.
L'heure du crime sur RTL.
Émission 10 ans donc après le drame, le double crime de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier. On l'a dit au début de l'émission, Jean-Pierre Trébert qui a été arrêté, qui va être mis en examen pour assassinat, ne sera jamais jugé puisqu'il va se suicider en prison et puis il va s'évader de façon très spectaculaire. On reviendra sur tout cela tout à l'heure. Mais d'abord, un des grands moments de cette enquête, nous allons en parler tout de suite avec Christophe Gauthier et Stéphane Manca. Le temps pour moi de vous rappeler donc ce que je disais il y a un instant, mars 2005, on apprend pas une mise en examen à l'époque encore, mars 2005, mais une garde à vue de cette femme. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les enquêteurs s'intéressent-ils à Marie-Christine Van Kampen au point de la mettre en garde à vue avant les explications de Christophe Gauthier et Stéphane Manca, celles que donnait sur l'antenne d'RTL Franck Moulin.
D'abord, c'est elle, la tante de Géraldine Giraud, Marie-Christine Van Kampen, qui cet automne hébergeait Katia Lherbier avant qu'elle ne connaisse Géraldine Giraud. Katia Lherbier, musicienne, était venue habiter chez Marie-Christine, professeure de chant, après une rupture amoureuse avec l'une de ses amies. Du coup, c'est chez sa tante, dans la région de Sens, que Géraldine, qui venait en visite, a rencontré Katia Lherbier. C'est là que la relation entre les deux jeunes femmes s'est nouée. Mais surtout, les services de police judiciaire de Dijon et de Versailles et le juge d'instruction ont choisi de placer Marie-Christine Van Kampen en garde à vue pour effectuer des vérifications. Premier élément, il y a dans l'appartement de Marie-Christine des traces d'un produit proche du chloroforme et c'est ce type de produit qui est intervenu dans le décès des deux victimes et qui a été retrouvé sur les vêtements des deux victimes. Deuxième élément, les enquêteurs de la police judiciaire ont la conviction que la tante de Géraldine Giraud n'a pas dit toute la vérité sur son emploi du temps. Avec cette garde à vue, les policiers qui restent très prudents souhaitent donc effectuer ces vérifications.
Et alors, Christophe Gauthier, il va y avoir une deuxième garde à vue de Marie-Christine Van Campen. Il faut dire que le produit qu'on a trouvé dans la cave, finalement, on trouve une explication à peu près rationnelle qui expliquerait qu'il peut y avoir des traces de ce produit sans qu'il soit mêlé à l'affaire.
Alors, lorsqu'on découvre le corps des deux jeunes femmes au mois de décembre 2004, la question qui se pose, c'est comment elles ont été tuées. Et dès le mois de janvier 2005, l'enquête fait un bond considérable, puisque l'arme du crime est déterminée, il s'agit de chloropicrine, un produit qui est alors interdit et qui est utilisé
par des chasseurs.
Par des chasseurs, exactement, pour débusquer des nuisibles, des renards, des terriers, un produit extrêmement toxique et très puissant. À partir de là, les enquêteurs vont se demander où est-ce qu'on peut retrouver des traces de chloropicrine, bien sûr, naturellement, pour déterminer le lieu du double meurtre. Des traces de chloropicrine, il y en aura effectivement dans le puisard, ce qui est normal puisque les corps y ont séjourné. Mmh. Et puis, de manière inexpliquée, on va trouver des traces de chloroforme, pas de chloropicrine, mais de chloroforme.
C'est un sous-produit, on va dire, de la dégradation
voilà,
de ce produit.
La dégradation de la chloropicrine, au fil du temps, ça donne des traces de chloroforme dans la cave de Marie-Christine Van Campen. Donc, du coup, la tante devient, sinon suspecte, du moins, elle est dans le collimateur des enquêteurs, parce que, indépendamment de ce rebondissement, d'autres faits, d'autres attitudes ne lassent pas de troubler les enquêteurs. Oui. Elle est parfois confuse dans ses explications. Le commandant Cuneau a pu déterminer que quelques jours après la disparition de sa nièce et de Katia, elle avait elle-même essayé de partir en Allemagne. Ce que les enquêteurs ont pris peut-être pour une fuite. Ses réponses sont parfois incohérentes. Donc, les enquêteurs en viennent à la conclusion qu'elle n'est pas peut-être pas innocente dans ce double homicide.
Et alors, surtout, lui pose une question, c'est est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Trébert ? Elle va nier, bien entendu.
Elle ne le connaît absolument pas.
Et Stéphane Minca, là, c'est le deuxième rebondissement, c'est qu'il y a un moment, un témoignage, non, de quelqu'un qui dit, mais moi j'ai vu cette femme.
Je les ai vus ensemble. Oui, tout à fait.
Ça, c'est plus tard, ça va être l'occasion de la deuxième garde à vue et de la mise en examen.
Exactement, donc ça va être...
complicité d'assassinat.
Une grande partie de l'enquête va être de réussir à confirmer ce témoignage, à savoir à quel moment il y aurait eu un rendez-vous entre Jean-Pierre Trébert et Marie-Christine Van Campen et éventuellement une troisième personne. Et donc en attendant, Marie-Christine Van Campen va être placée en détention jusqu'au moment où l'enquête abandonnera cette piste, puisque rien ne prouve au final que cette rencontre a eu lieu. Voilà. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, la morale de l'histoire, c'est que une des grandes théories de l'enquête consiste à penser qu'il s'agissait d'un triangle amoureux.
Oui. Donc c'était la question du mobile, en fait. Alors,
c'est la question du mobile, au final.
Oui. Si vous voulez, pour que vos...
Christophe Gauthier, oui.
Ouais, il ne faut pas perdre de vue une chose qui est extrêmement importante, et le procureur nous le confirmera peut-être, sans doute, quand on le reprendra tout à l'heure au téléphone, c'est que lorsque les enquêteurs arrêtent Jean-Pierre Trébert, il a le profil de rien. Et il ne pense pas que ce type ait pu agir tout seul. Oui. Donc il pense qu'il y a forcément une complicité quelque part. Jean-Pierre Trébert, c'est un type qui a un physique difficile, avec une paupière qui tombe, on l'appelle non-œil, il est un peu rustre, en même temps il est malin. Il est très très vite...
Il n'a pas l'envergure pour monter une affaire
oui,
comme
celle-là. Oui, on se dit que c'est
la possible. Il a un rapport avec ces filles-là. Mmh.
Donc on cherche à ce moment-là d'autres pistes. Est-ce qu'il y a un commanditaire? Est-ce qu'il y a des complices? Et puis il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dès le départ, Roland Giraud indique aux enquêteurs que si sa fille a disparu, sa belle-sœur, en l'occurrence Marie-Christine Van Campen, n'est peut-être pas étrangère à cette disparition.
C'est sur PV dès le 8 novembre, c'est-à-dire 8 jours après la disparition.
Et donc forcément, c'est une déclaration qui intéresse au plus haut point les enquêteurs.
Alors, il faut dire à ceux qui nous écoutent que Marie-Christine Van Campen a été totalement blanchie.
Bien sûr. Totalement et définitivement.
Définitivement, elle a bénéficié d'un non-lieu prononcé par le magistrat instructeur Michael Gilles. le 19 septembre 2008, donc après 4 ans d'enquête. Et là, il n'est pas question de parler de bénéfice du doute, ou etc. Il y a un non-lieu, point. Et donc, elle n'est plus dans le dossier. La femme de Trébert, Patricia Darbeau, dont on avait supposé qu'elle pouvait être complice et qui avait été aussi mise en examen.
Ce n'est pas sa femme. Hein.
Non, pardon, sa compagne. Voilà, une amie. Bon. Obtient également un non-lieu. Et toujours ce 19 septembre 2008, le magistrat ordonne en revanche le renvoi aux assises pour assassinat de Jean-Pierre Trébert.
Oui, non-lieu confirmé par la cour d'appel de Paris, hein, c'est très très important. Et même si les explications de Marie-Christine Van Kempen à un moment ont pu apparaître un peu fantasques, un petit peu imprécises, finalement rien n'a jamais pu être retenu contre cette femme.
Alors, évidemment, on ne peut pas reprendre minute par minute dans ce dossier, mais il y a un moment très important, et on en reparlera après la pause avec le procureur, l'ancien procureur de la République de Sens, Michel Meurant, c'est la reconstitution qui a eu lieu, judiciaire. Alors là, c'était avant ce dont on vient de parler, c'était 2 ans avant, le 17 novembre 2006, parce que la justice se dit que peut-être si on essaie de reconstituer ce qui s'est passé, bah, ça va peut-être apporter de nouvelles lumières à l'enquête, ce qui n'a pas été le cas. Mais on évoquera cela dans un instant avec un document RTL, et puis ensuite on rappellera Michel Meurant, qui avait parlé au début de l'émission.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Dans un tout petit instant, nous allons retrouver en ligne Michel Meurant, donc qui était procureur de la République de Sens pendant l'affaire Giraud, on va dire, pour aller vite. Et on va évoquer un moment que lui n'a pas oublié, il va nous dire pourquoi dans un instant. 17 novembre 2006, on est 2 ans après les faits, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Les enquêteurs donc et les magistrats instructeurs organisent une reconstitution. Il y a les avocats, il y a évidemment le principe le suspect Trébert, qui va se montrer très peu coopératif. Et bien sûr, Fanny Stenler, qui suivait l'affaire pour RTL, était sur place, en direct de Villeneuve-sur-Yonne. Écoutez-la.
Une reconstitution qui se poursuit de nuit. Les policiers mènent en ce moment une perquisition au domicile de Jean-Pierre Trébert. Ils sont toujours à la recherche de preuves qui pourraient confondre cet homme qui continue aujourd'hui encore de nier. Face à eux, le garde-chasse reste en effet impassible depuis le début de la journée et peu coopératif, et ce malgré la présence de la famille de Katia Lherbier. Auparavant, des tests sur 2 mannequins représentant les 2 victimes ont été réalisés afin de préciser les circonstances de leur mort. Des tests qui auraient ainsi confirmé que les 2 femmes étaient mortes avant d'être jetée dans le puits. Quant à la tante de Géraldine Giraud, Marie-Christine Van Kempen, mise en examen pour complicité d'assassinat, elle n'aurait jusqu'à l'heure actuelle apporté aucun élément nouveau quant à son rôle dans l'affaire. Une nouvelle phase de reconstitution commence maintenant, la réalisation de tests sonores nocturnes, c'est-à-dire les bruits de la pelleteuse qui a servi à ensevelir les corps afin de préciser le jour exact de la mort des 2 jeunes femmes.
On reprend tout de suite Michel Meurant au téléphone. Évidemment, cette journée, ces heures-là, vous ne les avez pas oubliées. Hein.
Oh ben non, je risque pas, puisque j'en subis toujours les séquelles.
Ouais. C'est-à-dire, vous avez été pris d'un malaise pour aller vite.
J'ai fait un infarctus sur place.
Ouais. Alors bon, évidemment, ceci explique cela, comme on dit. Cette reconstitution, vous qui avez l'habitude, puisque c'est votre métier, les journalistes, là, ceux qui sont d'à côté de moi, Christophe Gauthier, Stéphane Minquette, est tenu à distance, comme toujours, hein, évidemment, mais sur place. Ça a permis d'avoir une idée plus précise de ce qui s'était passé ?
En fait, ce que cherchait le juge d'instruction, c'est à vérifier si Trébert avait pu manipuler les corps seul et les jeter dans le puisard, ou s'il avait manifestement dû bénéficier d'un concours.
Ouais, d'où les mannequins, quoi.
Voilà, le juge s'était procuré les mannequins, et c'était des mannequins dont on se servait autrefois pour les crash tests en matière d'automobile. Ouais. Donc très manipulables, qui avaient à peu près le gabarit humain. Ouais. Et l'expérience a prouvé que Trébert pouvait très bien avoir agi seul. Mmh. Ouais. Mais j'entends bien avoir agi seul pour jeter les corps dans le puisard.
Hein. Ouais. Voilà. Oui, parce que donc, si je comprends bien ce que vous nous dites là, c'est tout ce qu'on sait, et comment s'est passé l'assassinat, le double crime à ce jour, on le sait.
Bah ça, on n'a jamais eu que des suppositions, puisque Trébert n'a jamais rien dit. Il se contredisait d'une phrase à l'autre, et quand on le mettait en face de ses contradictions, il se refermait comme une huître et on n'en tirait plus rien.
Mais Michel Meurant, on se pose toujours la question là. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent doivent se la poser comme moi. On se dit toujours, mais s'il avait eu un complice ou s'il y avait eu un ou une commanditaire, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas dit ?
Ben voilà, c'est le problème. Pourquoi ? Pourquoi ?
Ça arrive souvent dans les affaires criminelles.
Je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais connu une affaire comme celle-là, ni un homme. Pourtant, je vous le dis, hein, j'ai été dit en juge d'instruction, j'en ai interrogé des personnes. Un homme qui s'est conduit de cette façon-là, qui restait taiseux, taisant, muet, qui sortait. Je vous dis, pendant sa garde à vue, il nous a sorti 3 ou 4 versions de sa rencontre avec les deux victimes, qui ne tenaient pas plus debout les unes que les autres, d'ailleurs. Mais tout le problème a été là. Voilà, il attendait. Patiemment, il attendait. On a l'impression que jamais il s'était senti concerné par l'enquête. Il se contentait de dire, bon, moi j'y suis pour rien. Ceci étant, manifestement, il ne connaissait pas les deux victimes.
J'ai une question très, avant de redonner la parole à Christophe Gauthier et Stéphane Manca, mais une question d'ordre juridique plus que judiciaire. L'action de la justice est éteinte concernant Jean-Pierre Trébert. Est-ce que 10 ans après le double crime, mais moins longtemps après les derniers développements de l'affaire, il y a une prescription en cours. Est-ce que l'affaire peut repartir si un jour quelqu'un décidait de parler ?
Actuellement, si vous voulez, la prescription en matière criminelle est de 10 ans. Mais elle ne court que du dernier acte d'enquête, du dernier acte judiciaire. Or, le dernier acte judiciaire a été la constatation de l'extinction de l'action publique par la cour d'assises de Lyon concernant Jean-Pierre Trébert. Donc la prescription de 10 ans court à partir de cette date-là. Et donc, aujourd'hui, elle n'est pas acquise.
D'accord. Alors, votre avis, Christophe Gauthier, Stéphane Manca, pourrait y avoir encore un ultime rebondissement ?
De mon point de vue, non. Non, je pense pas non plus. Je pense que le policier et magistrat ont fait le tour de l'affaire. Ils l'ont là-dessus, ils ont fait même quasiment plus qu'il n'était nécessaire de le faire. Nous, on pense que. Mais on n'a pas les preuves, mais on pense que c'est une affaire qui est malgré tout relativement simple. C'est-à-dire que Trébert, à ce moment-là, était dans une impasse financière, parce que on ne nous l'a pas évoqué pendant l'émission, mais il fréquentait des gens qui n'étaient pas très fréquentables, il avait des problèmes d'argent, et on se dit qu'il interceptait les jeunes filles, qu'il voulait à l'époque voler des chéquiers, il avait un complice où il faisait du recel de chèques volés, et puis l'affaire a sans doute mal tourné, mais peut-être que monsieur le procureur ne partage pas ce point de vue.
Oui, ben, on va vous donner le dernier mot. Il nous reste quelques secondes, Michel Meurant. Votre avis ?
Oui, non, moi je ne partage pas ce point de vue, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, manifestement, il ne connaissait pas ses victimes, mais il avait des tas de renseignements sur Géraldine Giraud. D'ailleurs, il ne parlait que de Géraldine Giraud. À aucun moment, il n'a parlé de Cathy Lherbier. Et donc, quelqu'un lui avait donné les renseignements sur Géraldine.
Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, vraiment, de ce témoignage de quelqu'un qui a été au cœur du dossier. Merci, Michel Meurant. On va vous retrouver bientôt. Alors, vous écoutez régulièrement l'heure du crime, si je comprends bien. Merci infiniment, en tout cas, et merci beaucoup, Christophe Gauthier, Stéphane Manca. Et votre livre, je rappelle, l'affaire Giraud, chez Flammarion.
Merci. Au revoir.
L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques secondes.